walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Hard against some mad bugger's wall.
Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le locataire intérieur. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. De ma fenêtre, je regarde la neige. Elle a tombé cette nuit à gros flocons, à tout recouverte d'une épaisse couche blanche. Maintenant, le ciel est gris. L'arbre au milieu de tout ce blanc n'est plus qu'un trou noir. Seul, au milieu du champ, il fait tache. Il n'y a pas que lui qui fait tache. Ce sol lisse est imprimé des traces de chaussures d'hommes et des taches rouges sur ce blanc, cela fait désordre. Cette nuit, j'étais très fatigué, trop fatigué pour les enlever. Il faudra que je le fasse. Je n'en ai pas le courage. Il fait trop froid. Arrivée, la femme le reçoit à son salon. Me voici, madame. Je vous remercie de m'héberger et de me protéger, mais pouvez-vous m'en dire plus ?
Non, monsieur. Ce serait trop compliqué. Et il se fait tard. Vous voyez, je suis déjà toute pâle. Désirez-vous manger ?
Non, j'ai déjà dîné, madame. Merci.
Bien, je vais vous montrer votre chambre.
Et il la suit. Ils sont sortis du salon, suivent un couloir, montent un grand escalier de pierre. Au premier, ils suivent encore un couloir. Elle va ouvrir une porte.
C'est votre chambre.
Elle est claire. Ils entrent. C'est une grande pièce meublée Louis XVI, blanc et rose.
J'espère qu'elle vous plaît.
Oui, elle est très belle.
Un peu passée, n'est-ce pas ?
Je n'osais pas vous le dire, mais pourquoi est-ce que tout semble passé dans cette ville ?
Parce que nous sommes peut-être passés. Bonne nuit.
Bonne nuit, madame. Frédéric est venu sans rien. Il se déshabille. Il se couche en slip. Il s'endort profondément. Un sommeil de plomb. Noir. Puis, il est réveillé par le froid. Le froid. Dans son demi-sommeil, il essaye de se couvrir de la couverture. De la couverture. Voit avec surprise le ciel étoilé. Il voit qu'il est habillé autour de lui. Voit qu'il est couché sur le pavé. Dehors, un paquet. Et près de lui, il tend le bras. Ça le retourne. Il voit le visage d'un homme mort. La tête grimaçante. Les yeux fixes, apeuré, il se lève et voit qu'il est sur la berge du fleuve. Regarde l'homme mort, enroulé dans son manteau, un couteau dans le dos. J'en ai assez! Je n'y comprends rien! 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 Et il se met à courir, 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 courir. se réveille en sueur dans la chambre de la villa. Il est couché sur le lit avec ses habits. Il se lève. Il n'y comprend rien. Prend son mouchoir pour s'essuyer la sueur au visage et voit que ses mains sont en sang. Et voit que ses vêtements sont tachés de sang et de boue. Mon Dieu, que s'est-il passé ? Il regarde autour de lui et se sauve en courant. Ils veulent quitter la villa. Arrivé dans son allée, il trouve sa logeuse dans les escaliers. Elle le regarde de la tête aux pieds et lui dit
« Encore vous ? Et dans quel état ? Mais que faites-vous donc ? Je vous prenais pour quelqu'un de sérieux. »
Il ouvre ses épaules et entre chez lui. Elle lui crie derrière la porte
« Ça finira mal tout ça !»
Un après-midi après l'université, il rencontre sur le chemin du retour Iphigénie.
Bonjour, vous allez bien ?
Oui, dit-elle.
Vous allez prendre un café ?
Oui, je veux bien. Et ils vont au même café que leur première rencontre. Ils ont choisi un coin tranquille, commandent deux cafés, elle lui dit.
Le locataire qui était avant vous, elle en savait trop. C'est pour cela qu'on l'a tué. Faites attention à vous.
Mais pourquoi ?
Il ne faut pas chercher.
Il ne faut pas chercher. C'est facile à dire.
Comment pouvez-vous ne pas y penser à tout instant quand il vous arrive quelque chose d'étrange et d'horrible ?
Comment ça va ?
Si vous saviez tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps.
Je venais juste m'acheter des
skis. Je comprends. Mais c'est peut-être à l'intérieur de vous qui se passe le plus de choses. Tout ce qui vous arrive est peut-être dû à ce que vous avez en vous. Comment cela ? Vous mélangez peut-être vision et réalité. Mais je suis conscient. Pas besoin d'être inconscient ou fou. Il suffit d'alchimie.
Je vous en prie, ne mettez pas la tête en feu avec tout ça. D'ailleurs, pourquoi est-ce que pour moi ce ne serait que des fantômes, ce qui m'arrive ? Alors que pour les autres,
ce qui est arrivé à la locataire qui m'a précédé alors,
ne me mettez pas en colère. Il m'arrive, pour maîtriser tout ça, de chercher des solutions les plus absurdes. Je vous répète ce que vous ai dit au début. Ne recherchez pas à savoir, sinon il vous arrivera la même chose qu'à elle. Bon, je tâcherai d'oublier.
Après avoir bu leur café, elle se lève et lui dit
« Je dois partir. J'ai affaire. Je vous accompagne.
si vous voulez.
Je ne l'ai pas lu. Moi non plus. Je suis pas très intéressé par Théophile Gautier. Elle l'avait laissé là un soir. Regardez-le si vous voulez.
Dans son lit, la nuit, il pense à la locataire. Regarde sa photo, la trouve très belle, se demande ce qu'elle a pu trouver sur la ville. Puis, il s'endort. Dans son lit, il rêve que la jeune fille lui apparaît, s'approche de son lit, lui sourit. Il a envie de la prendre dans ses bras, de la coucher, de la déshabiller. Il veut lui faire l'amour, mais tandis que lui s'excite, elle reste de marbre. Il ne s'occupe plus de ses études, ses pensées sont ailleurs. Il passe des journées dans sa chambre à se demander « Pourquoi tous ces meurtres autour de moi et tout ce sang sur moi ?» Il marche dans les rues au hasard, voit que les gens le regardent drôlement et l'évite. Il laisse un espace autour de lui. Un jour, il se regarde dans la glace et voit qu'il est comme les gens de la ville, pâle, sans couleur. Il s'est fondu dans le paysage. Il est réveillé par du bruit que l'on fait derrière la porte condamnée. Un bruit très fort, sourd. Il en a assez. Il aimerait qu'on le laisse tranquille. Il se lève d'un bond va vers la porte et essaye par des coups d'ouvrir cette porte. Il veut faire cesser ce bruit. Coup d'épaule, coup de poing, rien n'y fait. Et le bruit est toujours là. Il voit que vient de derrière la porte une flaque de sang. Il court prendre une serpillière et un seau de sous l'évier. Et éponge le sang. Mais plus il éponge, plus il y a du sang. Cela énerve les tites surtout. Que de bruit, toujours de bruit, toujours. Fait cela pendant un long moment, puis épuisé, il s'évanouit à terre. Réveille la pièce pleine de lumière, voit le seau de sa pillard à côté de lui, le sang est séché sur le sol. Dans la nuit, il est réveillé par un bruit imperceptible et voit que se penche vers lui une ombre pour chercher à l'étouffer avec un oreiller. Il se défend comme il peut. Mais celui qui l'attaque est plus fort. Voit l'oreiller descendre. Il s'évanouit. Il se réveille, se trouve dans la Rolls. La voiture roule, c'est la nuit. La femme de la villa est à côté de lui. Elle lui dit « Vous vous souvenez de moi ? Je suis Moïva. » Il a de la peine à reprendre ses esprits. « Où suis-je ? Dans ma voiture. Vous êtes mort. » Il s'évanouit. Il revient à lui, couché dans sa chambre. Il voit penché sur lui Moïva qui lui dit « Vous êtes mort. » « Non, je ne suis pas mort. »
« Mais si. Ne soyez pas stupide. »
Un homme habillé de noir avec des gants blancs s'approche de lui et lui demande « Il est mort. » Elle lui répond
« Oui. »
L'homme se penche sur Frédéric qui ne peut réagir. Il lui tire hors du lit, le maintient sous le bras, ouvre la porte condamnée, entre avec Frédéric. Ces mots, c'est noir. Et il le pousse dans un trou. Ah, 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 ah. fond de son trou noir et entend sa logeuse Rose péter.
On ne sait jamais où il est. Il est toujours pareil. C'est toujours pareil avec lui. Regardez, toutes ces saletés.
Il essaye de se lever et tombe à terre, essoufflé, reprend conscience, voit penché sur lui Moïva qui lui sourit.
Vous n'êtes pas mort?
Elle rit. Se réveille allongé dans le caniveau, courbaturé, et se lève pour entrer chez lui. Rentre chez lui, trouve sa logeuse dans les escaliers qui lui dit
« Encore ivre-mort ? C'est tous les soirs maintenant ?»
Il entre chez lui. S'assoit sur une chaise. Se demande s'il ne boit pas, s'il n'a pas des hallucinations par l'alcool, mais ne se souvient. De rien, de rien. Dans la nuit, il rêve à du sang sur la neige. Il se réveille dans la nuit, décide de sortir, se lève et s'habille. Et sort de la pièce. Les rues sont désertes. Tout à coup, il voit arriver
Où il va? Il la suit dans la rue. Elle marche sans se presser. Il décide de lui parler. Il la rattrape et lui dit: Moïva, je ne suis pas Moïva, car elle est morte. Elle s'éloigne sans se presser. Il reçoit un appel téléphonique d'Iphigénie. Il la fait mettre le téléphone dans sa chambre. Elle lui dit: faites attention, votre zélogeuse vous a dénoncé. L'on va ouvrir un dossier sur vous. Si l'on trouve quelque chose chez vous, l'on vous prendra. Vous serez jugé et tué. Mais je n'ai rien chez moi. Je n'ai rien à me reprocher. Il trouve toujours quelque chose. Toujours, vous m'entendez? Un soir, en entrant chez lui, il voit à terre le cadavre d'un homme. Mais qui a mis ça chez moi? Et qui est-ce? Il tourne autour. Il voit l'homme, ne le reconnaît pas. Il a un couteau dans le dos. Cela suffit! J'en ai assez! Je m'en vais! Pour prendre sa valise qui est sous le lit. La met sur la table et l'ouvre. L'on a frappé à la porte. Sursaute, n'ose pas bouger. Ouvrez, police! Il regarde autour de lui. La police enfonce la porte. Il court vers la porte qui est condamnée. La pousse, entre et tombe dans un grand trou rouge.
Thank you.
reprend connaissance, voit le ciel bleu, le chant des oiseaux, et ne peut bouger, entend des gens qui parlent, tourne la tête, voit une voiture enfoncée dans un arbre, des pompiers le soulèvent, le mettent sur un brancard dans l'ambulance. Ne peut parler. Chambre d'hôpital blanche, très blanche. On tourne autour de lui. Pendant un long moment, il ne peut parler ni penser. Un médecin vient le voir avec un couple. Un homme et une femme de 50 ans. La femme est plus petite que l'homme, mince, de visage doux, blanche. L'homme est grand, mince, les cheveux gris, porte un costume marine. Le médecin, qui est un grand homme, fort de 30 ans, il lui dit « Monsieur François Lemort, vous avez la visite de vos parents, vous m'entendez ?» Frédéric fait oui de la tête, mais ne reconnaît pas ses parents. Le médecin dit « C'est le choc qui l'a rendu amnésique, mais ça lui reviendra. Il faut venir le voir souvent et lui parler de son passé. » Frédéric ne se souvient plus de rien. Il ne sait plus où il est. Il n'en sait plus où il est. Les jours passent, physiquement il est guéri, dort bien, mange bien, mais n'a toujours pas retrouvé la mémoire. Un jour, le médecin vient le voir et lui dit « Vous êtes guéri, vous allez retourner chez vos parents. Je viendrai vous voir une fois par semaine pour voir si votre mémoire revient. Une ambulance viendra vous prendre demain matin. » Il est inquiet. C'est comme s'il allait entrer dans une famille inconnue. Le lendemain, l'ambulance s'arrête devant l'entrée d'une maison toute blanche de 2 étages, une baie vitrée. On le sort de l'ambulance. Il veut marcher, mais il est trop faible pour pouvoir marcher seul. Il est maintenu par 2 infirmiers. Devant l'entrée, ses parents sont là pour l'accueillir. Sa mère lui dit « Tu verras, mon chéri, nous allons très bien te soigner. Ta chambre est prête. » Père lui dit « La piscine est à bonne température. » Il entre dans la villa. La mère guide les infirmiers pour les mener au premier étage où se trouve la chambre. On fait entrer Frédéric dans une vaste chambre. Elle est toute blanche, meublée de meubles moderne, laqué blanc, grande baie vitrée, tout baigne de lumière, des placards, une armoire, un bureau. Frédéric clignote des yeux, cette clarté qui est très forte, trop forte pour lui, car il n'en a plus l'habitude. Sa mère le voit
et va fermer les volets. On l'allonge sur le lit. Il est en pyjama. Je penche vers lui sa mère.
Tu te souviens de ta chambre?
Il fait non de la tête.
La mémoire te reviendra petit à petit. Nous allons te laisser te reposer maintenant. Nous irons te chercher pour le dîner.
Je t'ai préparé ton plat préféré, des endives. Et il le laisse seul. Les jours passent, calmes, lents. La plupart du temps, il reste dans sa chambre, à feuilleter des cahiers, livres, voir des photos de famille. Il reprend des forces. Ses parents sont gentils avec lui, mais aucun souvenir ne lui revient. Le médecin vient le voir une fois par semaine, le fait parler, lui demande ses impressions sur les objets, des gens. Il répond évasivement. Son cerveau a une telle fatigue qu'il a surtout besoin de ne pas penser, de se laisser guider. Une nuit, pourtant, il fait un cauchemar terrible. Une femme au visage émacié qu'il regarde. Un bruit sourd qui fait trembler son lit. La chambre est sombre, noire. Un homme pendu au-dessus de son lit. Une voix de femme qui lui crie.
Tu reviendras parmi nous! Tu fais partie de la ville à jamais. Tu nous appartiens. Tu nous appartiens.
Réveille en sueur et se souvient avec effroi de la ville. Se met à crier dans la nuit.
Non, je ne veux pas. Non.
Il a crié si fort que ça l'a réveillé complètement. Il est en sueur et se souvient de tout. On frappe à la porte de sa chambre. Il panique, il a peur, il crie.
Non, je ne veux pas. Laisse-moi. Je ne veux pas y retourner. C'est maman, Frédéric. Ça ne va pas.
Il ne répond pas.
Je peux rentrer.
Il reste paralysé.
J'entre, mon petit.
La porte s'ouvre. C'est sa mère en chemise de nuit, robe de chambre rose. Elle s'approche de lui.
Tu n'as besoin de rien.
Non, je ne veux pas retourner à la ville. Elle se penche et voit qu'il est en sueur.
De quoi parles-tu, mon petit?
De la ville, celle d'où je viens.
De quelle ville?
Je ne veux pas y retourner. Gardez-moi près de vous.
Nous te gardons, calme-toi. De quoi as-tu peur?
De cette ville, de ces gens qui veulent me faire du mal.
Personne ne veut te faire du mal, mon petit.
Si, il y a la logeuse, Mariva et les autres.
Je ne vois pas ce dont tu parles. Tu délires. Calme-toi.
Nous reparlerons de tout cela demain matin. » Elle l'embrasse sur le front. « Il te faut dormir maintenant. »«
Je ne peux pas dormir. Ils sont même dans mes rêves. »«
Sois raisonnable, mon petit. Personne ne te veut du mal. »
Elle se lève et sort de la chambre songeuse.
Lui ne peut dormir. Il a retrouvé ses peurs.
Le lendemain matin, le médecin était prévenu. Il est venu et a d'abord voulu parler aux parents qui le reçoivent dans leur salon. La mère lui a tout dit.
Ce sont des hallucinations. Souhaitons que ce ne soit que passager.
Puis, ils sont montés voir Frédéric. Il est allongé sur son lit. Le médecin va s'asseoir au pied du lit.
Alors, il paraît que vous vous souvenez de certaines choses.
Oui, je me souviens de la ville.
De quelle ville?
Celle d'où je viens.
Comment était-elle?
Noire, très noire, triste, et les gens sont des monstres.
Je vois.
Ils veulent me reprendre, vous savez.
Et où est-elle, cette ville?
Je m'en souviens plus.
Vous y êtes allé quand?
Il y a quelques mois, pour poursuivre mes études à l'université.
Racontez-moi le voyage que vous avez fait pour y aller.
Je ne me souviens plus.
Je vois. Il ne faut plus y penser à cette ville. Ce n'est qu'un mauvais rêve.
Mais pourtant, je vous assure.
Oui, je sais. Dans votre état, les rêves ressemblent à la réalité. Reposez-vous, détendez-vous. Vous êtes en sécurité ici, auprès de gens qui vous aiment.
Petit à petit, le cauchemar s'estompe, la vie reprend le dessus. Dans sa chambre, à force de voir, toucher, chercher les objets, vêtements, livres, cahiers, il lui arrive souvent de penser que tout ce qui l'entoure est à lui. Il se sent plein de reconnaissance pour ceux qui se disent ses parents. Et petit à petit, les veut comme parents. Une grande tendresse les unit. Le temps passe. Il ne reste plus dans sa chambre. Va se promener dans la campagne. Nager dans la piscine, lire un peu. Ses parents ont décidé pour le distraire d'organiser une soirée.
comme nous sommes en été, la soirée se passe dans le parc. Frédéric est intimidé. Il a peur de se retrouver entouré d'inconnus. Un orchestre a été mis sur une estrade, des tables dressées pour les amuse-gueules. À 21h, les premiers invités arrivent. Frédéric reste près de ses parents. Ce sont presque tous des amis de la famille et chacun lui parle comme s'il le connaissait depuis longtemps. À 23h, il voit arriver une grande femme mince dans les 22 ans, très distinguée, mais d'une grande douceur, les cheveux roux, mi-longs, les yeux bleus profonds, et elle porte une robe longue blanche. Elle est éblouie par cette personne, demande à sa mère qui est-ce. Elle le regarde et lui dit « Mais c'est Lord Hautebeur. Je dois la connaître ?»« Non, pas vraiment. Nous l'avons que très peu vue. » Ça m'étonne que tu t'en souviennes. Se sent tellement attiré par son visage si pur, si lumineux, qu'il va vers elle. En quelques secondes, il a tout oublié. Il est guéri et se sent comme tout le monde. Une voix près d'elle. Bonjour, je m'appelle Frédéric, le fils de la maison. Je suis Lord Hautebeur. Il la regarde avec de grands yeux admiratifs. Vous voulez danser ? Oui, je veux bien, il lui dit. Je vous invite, mais je ne sais même pas si je sais danser. À la suite d'un accident, je suis devenu amnésique. Ça doit être terrible, assez évoui. On ne sait plus qui l'on est. Et c'est comme si on n'était rien. Je n'ai ni goût, ni désir. Enfin, jusqu'à ce soir, en vous voyant, j'ai tout de suite eu envie d'être près de vous. C'est ce que l'on appelle un coup de foudre. Elle sourit et dit, nous ferions mieux de danser au lieu de dire n'importe quoi. Et ils dansent. Ils passent toute la soirée ensemble à danser et bavarder de choses et d'autres. Avant qu'elle ne parle, il lui dit « Je veux absolument vous revoir. Je fais du cheval chaque matin à 10h, au champ clos. » Il rougit et lui dit « Je ne sais pas si je sais monter à cheval. Ce n'est pas grave, vous apprendrez. Allez, à demain à 10h. » À demain, il est fou de joie et se sent revivre.
Entre, reste pas là.
Petit déjeuner, il dit à ses parents qu'il va faire du cheval avec Laure. Ils sont surpris. Il leur demande « Est-ce que je sais monter à cheval ?» Son père lui dit « Oui, un peu. »
Thank you.
se fait mener en voiture. Puis, au champ clos, là, il retrouve l'or. Comme il hésite à monter à cheval, elle lui conseille de prendre des cours. Et tous les matins, il se revoit. Quelques leçons, il a réappris à monter. Ils font des courses vol dans la campagne. Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le locataire intérieur, dont c'était la quatrième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVR.